Nous vérifions tout au long de l'année, pour chaque messe du dimanche, la première lecture et l'évangile sont en harmonie. Leur ton, leur couleur vont bien ensemble. Mais ce n'est pas un souci esthétique qui préside le choix de ces textes, c'est un souci pédagogique. Cette harmonie à travers les thèmes, les mots, les images, elle nous aide à vérifier, à méditer la promesse que Jésus nous a faite, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. La Bible est un tout. C'est la parole d'un seul et même Dieu. C'est un seul et unique chemin de révélation. Le Nouveau Testament vient éclairer ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament annonce, prépare le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, il me semble que dans ce domaine, nous sommes particulièrement gâtés pour mieux comprendre que ce chemin de révélation parcourt toute la Bible, un chemin unique. C'est comme si le Seigneur parlait de plus en plus nettement, comme si d'un texte à l'autre, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on pouvait mieux mesurer le chemin parcouru, ou plutôt le chemin à parcourir. Rien n'est aboli de ce que Dieu a déjà dit à Moïse. Par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus ne dit pas autre chose, mais tout de même, quel chemin? Dans la loi de Moïse, nous l'avons entendu, là où il était question du prochain, on évoquait les fils d'Israël, ton compatriote, les fils de ton peuple. Dans le commandement de Jésus, ce cadre culturel national a disparu, et ce qui était à observer à l'intérieur du peuple élu, concernait mon prochain tout proche, voilà que selon l'évangile, celui que j'ai à aimer comme moi-même, désormais c'est n'importe qui. Dieu, c'est mon ennemi. Et il en est de même pour d'autres prescriptions de l'Ancien Testament, sur la vengeance, sur la violence. Jésus les reprend à son compte, mais il leur donne une amplitude nouvelle. Le domaine de mise en œuvre qu'il leur fixe est maintenant hors frontières, très souvent proche de l'infini. Alors disons-le, proche de l'impossible. Pour couronner le tout, l'enseignement de Jésus s'achève là où l'enseignement de Moïse avait commencé, par un ordre que nous pouvons d'abord juger que impossible à exécuter. Vous donc, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Comment le Seigneur peut-il nous donner un tel commandement? Comment ne pas être d'avance totalement humilié, découragé en recevant un tel ordre? Eh bien justement, en relisant la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament. Dans la Bible, nous trouvons d'autres ordres, d'autres commandements. Que la lumière soit. Lève-toi et marche. Lazare, viens dehors. Les Écritures sont riches en paroles autoritaires de Dieu. Et chaque fois, nous constatons que cet ordre est exécuté parce que Dieu lui-même se charge de l'efficacité. Que la lumière soit, la lumière jaillit. Lève-toi et marche, le paralytique se lève. Lazare, viens dehors. Lazare, sort du tombeau. Oui, lorsque Dieu donne un ordre, il donne la force pour qu'il s'accomplisse. Quand la parole de Dieu sonne en moi comme un commandement qui relève de l'impossible, au lieu d'être triste et découragé, je devrais plutôt me réjouir et penser, au milieu de l'impossible, je vais donc voir Dieu à l'œuvre. Dieu va faire l'impossible pour moi. Grâce à la langue française, le texte de l'Évangile va d'ailleurs dans le sens d'une invitation à se réjouir. Vous donc, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que nous avons remarqué, en français, l'ordre est formulé au futur. Comme si le Seigneur nous faisait une promesse. Un jour, vous verrez, vous serez parfait. Telle est la volonté de Dieu. Il ne délendra pas. Ce n'est pas un ordre qui doit mobiliser notre goût de l'acharnement orgueilleux, nos tendances au volontarisme épuisant, C'est un appel à compter davantage sur la puissance de Dieu. Une invitation à rechercher autour de soi les signes que Dieu veut vraiment faire l'impossible pour lui. Tendre l'autre joue à quelqu'un qui me gicle sur la joue droite, laisser mon manteau à celui qui veut ma tunique, faire 2000 pas avec celui qui me réquisitionne pour en faire 1000, voilà des actes qui concernent l'impossible. Non pas tant parce qu'ils sont impossibles à réaliser, mais bien parce qu'ils ouvrent sur l'impossible. L'impossible de la violence enfin désarmée. L'impossible de la spirale de la vengeance enfin interrompue. L'impossible de la réconciliation. L'impossible des ennemis qui deviennent amis. Dieu veut cet impossible, il le réalisera. Et la question que nous pose aujourd'hui l'Écriture, c'est avons-nous le goût de l'impossible? Croyons-nous à l'impossible? Non pas à l'impossible que nous aurions à faire, mais à celui que Dieu veut réaliser au milieu de nous. Ce n'est pas une question qui doit nous dissuader d'agir, nous rendre lâchement spectateurs. Elle doit au contraire nous mobiliser au plus profond de notre cœur, là où nous savons qui nous sommes, pas grand-chose, et qui est Dieu le plus puissant. Dieu a choisi de ne rien faire sans nous, sans nos initiatives, sans notre grâce, sans notre créativité. Oui, il a besoin de nous, mais c'est lui qui se charge de l'efficacité, du résultat, celui qui se charge de l'impossible. Oui, Dieu qui est parfait, la perfection, être parfait, c'est ne pas changer. Pour nous qui sommes imparfaits, la perfection, c'est changer sans cesse. C'est marcher pas à pas, sans nous lasser, sur le chemin de la perfection. C'est être toujours en route. C'est toujours désirer l'impossible. Et toujours croire que Dieu y travaille, parce que c'est cela sa volonté. Toujours croire que Dieu y travaille avec nous, à travers nos pauvres efforts pour mettre en œuvre l'Évangile. Alors, demandons au Seigneur, humblement, lucidement, vigoureusement, d'avoir de plus en plus pour nous-mêmes, pour le monde, le goût de l'impossible.